dans à l'intérieur de votre bulletin. On va prendre ça, on va dire, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la parole incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus, amen. Je crois qu'il faut avoir cette conviction à chaque fois que nous écoutons une prédication ou que nous lisons la Bible chez soi. Il faut qu'on sache que c'est Dieu qui nous parle et que nous serons changés. Amen. C'est vrai, hein? Si Jésus entrerait dans ta chambre chez toi, dans la chair, et si Jésus parlerait avec toi face à face dans la chair, penses-tu que tu serais changé? Penses-tu que ta vie sera changée? Jésus est la parole. Et la Bible dit, alléluia, alléluia, la parole était au commencement avec le Dieu, et la parole était Dieu. Mais maintenant, il nous a donné aussi sa parole écrite. Et quand on lit la Bible, c'est comme si Jésus lui-même est en train de nous parler. Et on peut être changé de la même façon. Donc, si vous voulez, allez avec moi à Psaume 107. Depuis au moins 4 semaines, peut-être même jusqu'à 6 semaines, je médite le Psaume 107. Et ça m'a changé. Je vous dis une chose, j'ai lu le Psaume 107 plusieurs fois dans ma vie, beaucoup, hein, des fois, parce que je lis la Bible beaucoup, mais j'ai lu le Psaume 107 il y a quelques semaines, comme j'ai dit, autour de 4-6 semaines, je ne m'en souviens plus exactement combien de temps, mais ça m'a tellement touché. Et j'ai médité, et j'ai même déclaré avec ma bouche ce que le Psaume 107 dit, et j'avais à cœur d'emmener une série de messages sur le Psaume 107, et je crois vraiment que c'est le temps maintenant de le faire. Et on va lire Psaume 107, verset 1, et on va découvrir aujourd'hui les richesses de sa bonté. Dieu est bon, Dieu nous aime, et Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Amen. La Bible dit en Psaume 107, verset 1, louez l'Éternel. Pourquoi? Car il est bon. Vous savez, juste là, on peut arrêter et on pourrait dire beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Dieu est bon. Ils pensent que Dieu est méchant, ils pensent que Dieu est sévère, ils pensent que Dieu est vraiment comme un veillard assis sur le trône avec la longue barbe blanche, avec un bâton dans la main droite. Il est prêt à nous frapper, nous taper sur la tête à chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'est pas correct. Je ne sais pas pourquoi on a cette idée de Dieu, mais ce n'est pas le cas, hein? Parce que je vous ai déjà raconté l'histoire de moi quand j'avais autour de 3 ans. J'étais chez grand-papa et grand-maman et je jouais sur le patio. Et là, mes parents étaient à l'intérieur avec les membres de la famille. Ils entendaient un bruit. Clic! Clic! Et ils entendaient ça et ça continuait pour un bon 5-10 minutes. Clic! Clic! Clic, ils ne savaient pas c'était quoi, mais tout d'un coup, il y avait un éclair. Et le petit Ken vient en courant. Okay? Moi, je me suis assis sur la chaise et j'étais vraiment, vraiment comme épeuré. J'étais tout blanc et mes parents ne savaient pas ce qui s'est passé, mais il y avait un éclair. Il n'y avait pas une tempête, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment la tonnerre, un éclair qui est venu. Et puis, ils sont sortis sur le patio. Et qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de jouer avec les canettes de bière de grand-papa. Hein? Et j'ouvrais toutes les canettes de bière. Il avait quelques caisses de bière sur le patio. Et moi, j'ouvrais toutes les caisses. Et mais moi, OK, j'avais 3 ans. Tout d'un coup, j'entends l'éclair, la tonnerre. Et j'étais sûr que c'était le jugement de Dieu. Hein? Je crois pas que c'était le jugement de Dieu, c'était juste par hasard. Mais quand même, mes parents trouvaient ça drôle, mais je pense pas que grand-papa trouvait ça drôle, que j'ai gaspillé toute sa bière, mais il n'en avait pas besoin quand même. Malheureusement, mon grand-père est mort parce qu'il était alcoolique. Mais gloire à Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu nous a été révélé. Et ma mère a découvert la bonté de Dieu quand j'avais 10 ans après le divorce de mes parents. Et j'ai vu le changement dans sa vie. Et moi aussi, je voulais être changé. Et c'est la bonté de Dieu qui a transformé ma vie. C'est la bonté de Dieu qui a transformé la vie de ma famille. Et c'est pourquoi on devrait louer Dieu, car il est bon. Amen. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Combien de vous, vous avez été délivrés de la main de Satan? Vous savez que sa main est méchante, il veut nous faire mal, il veut nous détruire, il veut nous tuer, comme il a tué mon grand-père, il veut nous détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à la miséricorde de Dieu, nous pouvons être délivrés de la main de l'ennemi. N'est-ce pas merveilleux? Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Voici l'image de ceux qui ne connaissent pas Jésus. On a vu la semaine passée et pendant quelques semaines que la vie sans Jésus n'a aucun sens. Et on voit ici dans la parole qu'ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. N'est-ce pas l'image de l'humanité sans Jésus? Nous sommes dans les déserts spirituels. On est assoiffé, affamé, on est perdu, on est errant comme des brebis qui n'ont pas du berger. On n'a pas de sens à notre vie, on n'a pas de direction pour notre vie, on n'a pas de stabilité. Les gens ne trouvaient pas une ville pour habiter. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une image des personnes perdues et qui ne sont pas stables dans la vie. Ils sont complètement perdus, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas le bonheur. Ils ne savent pas c'est quoi d'être heureux dans la vie, pour vrai, mais ils sont perdus, errants dans le désert, dans la solitude, mais grâce à la miséricorde et la bonté de Dieu, on peut être délivré de ces genres de vie sans issue, sans aucun sens. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et alors, il disait qu'ils étaient sans une ville où ils puissent habiter et souffraient de la faim, de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Tout le monde dit une ville habitable. Amen. C'est ça que Dieu veut pour vous spirituellement. Il veut que vous arriviez à une place où vous pouvez bâtir votre vie et avoir une vie qui est heureuse et une vie qui est stable. Vous ne serez plus un petit perdu dans le désert qui est affamé, assoiffé et qui n'a pas une place, une demeure stable où vous pouvez habiter votre vie. Il veut que vous trouviez une place habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Wouh! Gloire à Dieu! Juste là, on pourrait arrêter ce matin et on pourrait louer le Seigneur pendant 30 minutes pour sa bonté. Il est bon. Combien de vous, vous étiez comme des brebis errants, perdus, dans le désert, assoiffés, affamés, dans la misère, sous la main méchante de l'ennemi, prisonniers au diable, mais par la grâce et la bonté et la miséricorde de Dieu, nous avons été délivrés. Amen. Et Dieu nous a amenés à une place dans l'esprit où on peut avoir une ville habitable. On peut enfin bâtir une vie qui est stable, avoir une vie qui est heureuse. Combien de vous, vous voulez avoir une vie stable, une vie heureuse? Mais qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que même après avoir donné sa vie à Jésus, la stabilité ne s'installe pas automatiquement dans la vie, n'est-ce pas vrai? Il y a des personnes qui ont confessé avec leur bouche le Seigneur Jésus et qui ont accepté le don gratuit du salut, mais qui sont toujours pas stables, qui sont toujours assoiffés et affamés. Pourquoi? Je pense qu'on va trouver la solution et la raison pour cela aujourd'hui. Lisons, c'est dans vos notes, Matthieu chapitre 7, où vous pouvez aller dans votre Bible à Matthieu chapitre 7. Et on va voir aujourd'hui comment bâtir une vie heureuse et stable. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu nous aime, il veut que nous soyons heureux dans la vie. Il veut que nous ayons une stabilité dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Mon Père est bon. Il m'aime. Il veut que je sois stable. Il veut que je sois heureux. Mais Jésus nous a donné la clé de la stabilité. Ici en Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Tout le monde dit les met en pratique. sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, vous voyez, Dieu est bon. Dieu veut que votre vie soit heureuse et stable. Amen. Dieu veut vous amener à une place, une ville habitable. Il veut vous faire sortir du désert et du désordre aussi. Et il veut que vous soyez capable de construire une vie qui a du sens. Une vie qui est vraiment inébranlable. Une vie qui est heureuse. Combien de vous aimeriez avoir ce genre de vie? Voici la clé. Écoutez, entendre les paroles de Jésus et mettez ces paroles en pratique. Amen. Parce qu'il y a même des chrétiens qui vont venir à l'église à tous les dimanches matin. Ils vont entendre la parole de Jésus. Ils vont lire la Bible à la maison, peut-être même une fois par jour. Ils vont écouter, ils vont voir avec les yeux. Ils vont entendre avec les oreilles. Qu'est-ce que Dieu dit? Ils vont lire les instructions que Dieu nous donne pour construire une vie heureuse, une vie comblée, une vie inébranlable sur la terre. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas mettre cette parole en pratique et leur vie est toujours en désordre. N'est-ce pas vrai? Vous savez de quoi je parle? Ou est-ce que je suis la seule personne qui a vécu ça par le passé? Ici, on voit dans le fond, c'est dans vos notes, qu'il y a deux catégories de personnes par rapport à la parole de Dieu. Il y a des auditeurs oublieux qui se trompent, tout le monde dit se trompent, eux-mêmes, et il y a ceux qui mettent la parole en pratique et qui sont heureux en tout ce qu'ils font. Donc, c'est à nous de choisir aujourd'hui. Soit on peut, par la grâce et la bonté de Dieu, et grâce à sa miséricorde, on peut bâtir une vie stable, on peut avoir une vie heureuse. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, on va être heureux. Et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on va être, comme la Bible dit, on va voir tantôt un verset qui dit, il y a des auditeurs oublieux qui se trompent eux-mêmes. On va lire ce verset tout de suite. Hein? Et juste avant de lire le verset, je vais régler ça. Juste avant de lire le verset, remarquez dans vos notes que ce n'est pas ce que tu sais qui va transformer votre vie, mais c'est ce que tu fais. Tout le monde dit, c'est pas ce que je sais, c'est ce que je fais. Amen. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu, qui ont goûté à la bonté de Dieu, et ils ont commencé à construire les choses dans leur vie, mais si vous n'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous allez construire votre vie en vain. Et les torrents vont venir, les tempêtes vont venir et la ruine de votre maison sera grande. Amen. Les deux maisons dans l'histoire de Jésus, ils se ressemblaient. Ils étaient identiques. Il y avait seulement une différence entre les deux. Une maison était bâtie sur le roc et l'autre maison était bâtie sur le sable. Et souvent, on peut commencer à faire des choses dans la vie qui ont l'air d'être bien. Mais quand les tempêtes viennent, quand les difficultés viennent, on voit que notre vie n'est pas stable. Et aujourd'hui, on veut régler cela. On veut bâtir pour vrai. On veut bâtir une vie heureuse et une vie stable. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Amen. Tout le monde ici, je connais la plupart des gens ici, vous venez régulièrement à l'église et vous savez beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes heureux dans la vie? Sinon, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question pour vous. Si vous n'êtes pas heureux dans la vie, peut-être c'est parce que vous ne mettez pas en pratique ce que vous savez faire. Amen? Et aujourd'hui, je vous encourage, je vous exhorte par la bonté et la miséricorde de Dieu de mettre en pratique qu'est-ce que Dieu vous dit de faire. Parce qu'il est bon et son plan pour vous est le meilleur. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Pourquoi? Pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur. Car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. On va le dire ensemble. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Voulez-vous être heureux dans la vie? Voici la clé. Ce n'est pas un secret. Amen? C'est facile. Tout ce que vous avez besoin de faire pour être heureux dans la vie, c'est d'entendre les paroles de Dieu et de les mettre en pratique. Et comme je dis, il y a deux catégories des gens. Il y a des auditeurs oublieux. Et la Bible dit que les auditeurs oublieux, ils font quelque chose, ils se trompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Moi, j'ai été trompé dans le passé par des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont trompé avec les paroles? Heureusement, je suis marié avec une femme qui m'a jamais trompé. Amen. Heureusement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette expérience. J'ai une femme fidèle. Je suis un mari fidèle. Mais vous savez, dans le monde, on est souvent trompé. Mais qu'est-ce qui est encore pire que d'être trompé par notre entourage? C'est d'être trompé par soi-même. Comment est-ce qu'on peut se tromper soi-même? On entend ce que dit la parole de Dieu. On reçoit les instructions de Dieu. Et au lieu de les mettre en pratique, on commence à trouver des raisons pour lesquelles cela ne s'applique pas à ma situation. Ça, c'est bon pour les autres. Hein? On entend un bon message. Le dimanche matin, le pasteur dit les choses qui sont vraiment claires et importantes. Et au lieu de dire « Oui, Seigneur, j'en ai vraiment besoin d'appliquer ça dans ma vie », on dit « Oh, que ça serait bien si seulement telle et telle personne serait là aujourd'hui pour entendre ce message. Hein? » Je pense que je vais acheter la cassette. Je vais lui faire un cadeau. Hein? On prêche sur l'importance dans le mariage que le mari aime sa femme et que la femme respecte son mari. Et la femme va dire, oh, si seulement mon mari pourrait mettre cela en pratique. Hein? Et le mari dit, oh, ma femme a vraiment besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Non, non, non. Il faut pas se tromper soi-même. Il faut dire, Seigneur, ta parole, la Bible, c'est Dieu qui me parle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen? La Bible dit, pardonnez. Comme Christ nous a pardonné, mais nous disons, tu sais, je sais que la Bible dit qu'il faut pardonner, mais tu ne sais pas qu'est-ce que la personne m'a fait. Sûrement, le Seigneur va comprendre si je ne lui parle plus. Et on commence à raisonner des faux raisonnements, des raisons pour lesquelles on ne devrait pas mettre en pratique la parole. Est-ce que vous êtes là ce matin? Hein? La Bible dit, donnez, il vous sera donné. Hein? Mais on dit, ah, mais je sais que la Bible dit qu'il faut honorer le Seigneur avec les prémices de nos revenus, par exemple. Mais, tu sais pas ma situation financière. Ça marche pas. On peut raisonner. Mais sûrement, tu sais, le Seigneur va comprendre si je ne le fais pas. Vois-tu? Donc, que ça soit au niveau de notre marche d'amour, que ça soit au niveau de témoigner. Le Seigneur met dans ton cœur d'aller témoigner et de partager ta foi avec ton voisin. Tu dis, mais tu sais, si je vais parler avec lui, la personne va sûrement être offensée. La personne va penser que je suis tombé sur la tête. Donc, on va commencer à raisonner et on se trompe soi-même. Juste l'autre jour, hein, je peux te donner un bon exemple. Il y a peut-être deux ou trois semaines, je ne m'en souviens plus exactement. Je pense que, oui, c'était un mercredi. J'avais une commission d'affaires à l'épicerie, donc je suis allé. Et j'ai vu tout de suite un homme qui était là et j'avais vraiment à cœur de lui parler, de lui témoigner. J'avais vraiment l'impression dans mon cœur qu'il fallait lui parler. Mais tout de suite, je me suis dit, mais tu sais, je ne veux pas l'offenser. Je commençais, les raisonnements commençaient à rouler dans ma tête tout de suite. Oh, tu sais, il va penser que je suis fou. Peut-être il va penser que c'est un secte ou quelque chose de même. Donc, je commençais à me convaincre que ce n'était pas une bonne idée de lui témoigner. Combien de vous avez vécu des choses de même? On se trompe soi-même quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Mais vois-tu, tout à coup, je me suis dit, c'est ridicule. D'où vient le désir de parler avec cette personne? Ça ne vient pas de ma chair. Ça ne vient certainement pas du diable. Ce n'est pas le diable qui va m'inspirer de partager la parole de Dieu avec quelqu'un d'autre. Donc, ça doit venir de Dieu. Donc, j'ai osé prendre le temps de lui parler. Je lui ai donné un traité d'évangélisation. Et j'ai même dit, tu sais, ça, ce n'est pas une chose des Mormons ni des témoins de Jéhovah. Il a dit, ah oui, si c'est le cas, je veux le voir. Parce que moi, j'ai vraiment un grand amour pour Dieu. C'est une personne qui a besoin de connaître la nouvelle naissance, mais il a quand même un respect et un amour pour Dieu. Il était super ouvert et j'aurais pu manquer cette occasion si j'aurais laissé les faux raisonnements régner à place de laisser la parole de Dieu primer dans ma vie. Amen? Donc, ne soyons pas les auditeurs oublieux qui se trompent, mais soyons ceux qui mettent en pratique la parole. Amen? Comme je dis, hein, il y a des jeunes qui... on sait qu'est-ce que la Bible dit à propos de la sexualité, par exemple. Hein, on sait que la Bible dit que le sexe est réservé pour le mariage. Mais on va, des fois, on va se tromper en disant, « Oui, mais tu sais, on s'aime tellement. » C'est le vrai amour. Et sûrement, aux yeux du Seigneur, nous sommes comme déjà mariés. Hein? On se trompe. On voit des personnes qui vont tordre la parole de Dieu par des faux raisonnements. Et ils vont justifier leurs actions en se trompant. Et ces personnes ne sont pas heureux. Amen. Les gens qui sont heureux sont ceux qui croient à la bonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on raisonne de même? Pourquoi est-ce qu'on essaie de se convaincre de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? C'est parce qu'on n'est pas convaincu que Dieu est bon. Amen. On n'est pas convaincu que son plan est le meilleur plan. On n'est pas convaincu que si on fait les choses comme il nous a demandé de les faire, que les choses vont bien aller. On manque la foi et on manque la révélation de la bonté et la miséricorde de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, Dieu est bon et son plan est le meilleur. Vous serez heureux si vous mettez en pratique qu'est-ce qu'il vous dit de faire. Amen. Comment le faire? Comment mettre la parole de Dieu en pratique? Dans ce verset, il y a au moins 5 instructions qu'on va voir brièvement ce matin. Et on va méditer ces choses dans le but de les mettre en pratique. Amen. On a lu en Jacques chapitre 1, la première chose qu'on a lu, il faut se débarrasser de tout ce qui suit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Pourquoi? Pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Donc, la première chose, c'est dans vos notes, je veux que vous écriviez cela. Si vous allez mettre la parole de Dieu en pratique sur une base régulière, et si vous allez être heureux dans la vie, il faut reconnaître ou reconnaissez l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu. Si la Bible n'est pas l'autorité suprême dans votre vie, vous ne serez jamais heureux. Amen? Il faut prendre une décision une fois pour toutes que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai et tout ce qu'il me demande de faire, c'est la meilleure chose pour ma vie. Amen? Il faut reconnaître l'autorité. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Si vous ne reconnaissez pas l'autorité de la parole, vous n'allez pas mettre cette parole en pratique. C'est comme je l'ai dit à quelqu'un l'autre jour. Imaginez que vous sortez de l'église aujourd'hui, vous êtes en train de vous promener et tout d'un coup un étranger s'approche de toi et commence à te poser toutes sortes de questions. Il te demande de sortir ton portefeuille, de lui montrer une pièce d'identité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la fuite. Hein? Tu vas dire, hey, je ne sais pas qui tu es et je me sauve. Mais si un policier, OK? Qui est habillé comme policier, qui a l'autorité d'un policier, il s'approche de toi et dit, excusez-moi monsieur ou excusez-moi madame, mais on a eu un petit problème dans le quartier tantôt et on cherche une personne particulière et j'ai besoin de voir une pièce d'identité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous soumettre à ces instructions et qu'est-ce que le policier dit? Vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez son autorité. Amen. C'est la même chose. Si vous lisez la Bible comme n'importe quel autre livre, quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, vous allez, si c'est juste un autre livre, vous allez dire, bon, une belle pensée. Mais quand vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous parle, c'est plus une suggestion. Ce n'est plus une bonne idée. C'est un commandement qui vient directement de Dieu. Et Dieu vous commande, Marie, aimez vos femmes. Donc là, vous allez vous soumettre. Et toutes les femmes disent Amen. Et les hommes aussi vont le dire. Il faut reconnaître l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu. 2 Timothée 3:16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on voit que la parole de Dieu, chaque verset de ce livre est inspiré de Dieu. Et les instructions que je trouve à l'intérieur de ce livre sont bonnes pour moi aujourd'hui et je suis dans l'obligation de me soumettre à l'autorité de la parole. Amen. C'est l'autorité qui décide qu'est-ce que je vais... C'est la parole qui décide qu'est-ce que je vais faire et comment je vais mener ma vie ici sur la terre. Amen. C'est important. Numéro 2. Prenez une décision de qualité de recevoir la parole avec humilité. Tout le monde dit humilité. Qu'est-ce que cela veut dire avec humilité? Hein? En fait, la Bible dit en Jacques 4, 6 et 7, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donnez un exemple. Vous lisez la parole de Dieu et la parole de Dieu dit encore, OK? Femmes, respectez vos maris. OK? Et là, vous lisez cela, mais vous, au lieu de dire « Oui, j'accepte cela, je vais montrer du respect envers mon mari », vous dites « Ouais, mais tu sais, ça ne marche pas pour moi. Hein? » Et quand tu parles à propos de ton mari, tu dis hey, « Mais tu ne connais pas mon mari, lui, il n'est pas digne de respect, et puis oublie ça, ça marche pour les autres peut-être, mais pas pour moi. » Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de mettre vos idées et vos opinions au-dessus de l'opinion et les idées de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Et dans le fond, vous êtes en train de dire que toi, tu sais mieux que Dieu comment faire les choses dans ta vie. La Bible dit « Pardonnez comme Christ vous a pardonné ». Oui, mais cette fois-ci, oh, je vais pardonner, mais je ne vais pas vous oublier. Tu viens de mettre tes idées, tes opinions au-dessus des idées et les opinions de Dieu. En fait, c'est vraiment l'orgueil, n'est-ce pas? On est en train de dire, je sais plus que Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Quand la Bible dit, honore l'Éternel avec les prémices de tes revenus, et toi, tu dis, oui, mais ça ne marche pas pour moi, non, tu viens de mettre tes idées, ta façon de faire au-dessus qu'est-ce que Dieu a révélé dans sa parole. Amen? C'est l'orgueil. Et c'est pourquoi la Bible dit, recevez avec humilité la parole plantée dans ton cœur, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Amen? Il faut se soumettre à la parole. Il faut s'humilier devant la parole. C'est-à-dire, il faut tout simplement dire, même avant de lire quoi que ce soit dans la Bible, il faut prendre une décision en partant. Avant d'ouvrir la Bible, avant de venir à l'église, vous devriez dire au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, je prends une décision de m'humilier devant toi et d'accepter toutes tes instructions et tous tes préceptes, tout ce que tu vas me montrer dans ta parole, j'accepte à me soumettre à cela, même avant de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Amen? Il faut dire, Seigneur, je reconnais que ta parole a l'autorité et avec humilité du cœur, je vais me soumettre à tout ce que tu vas me dire. Amen? Important d'avoir cette attitude si vous allez être heureux dans la vie. On parle de comment être heureux dans la vie. Donc, au lieu de dire, oh, il faut que j'obéisse à la parole, on devrait dire, oui, gloire à Dieu, j'ai le privilège d'obéir à la parole de Dieu, et parce que Dieu est bon, il va m'emmener dans une ville habitable, je vais pouvoir bâtir une vie stable et heureuse ici sur la terre. Amen. Amen. Quelle joie que Dieu nous a montré comment vivre dans la joie. Il nous a montré le chemin. Hallelujah! Nous ne sommes plus des personnes perdues dans le désert, mais nous ne sommes plus des personnes assoiffées, affamées. Nous sommes rassasiés dans une ville habitable et nous avons une vie inébranlable. Numéro 3, soyez attentifs à la parole de Dieu. On tire ça directement de ce verset. Amen. C'est marqué qu'il y a des personnes qui sont les auditeurs oublieux et qui vont oublier qu'est-ce qu'ils ont lu et qu'est-ce qu'ils ont entendu. Mais il y a aussi des personnes... OK? C'est marqué ici dans votre texte, en Jacques chapitre 1, si vous voulez regarder. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. N'oubliez pas, la parole de Dieu donne la liberté. Vous étiez déjà dans l'esclavage, n'est-ce pas? Vous étiez déjà en esclave dans le désert, mais c'est la parole qui vous donne la liberté. Voulez-vous être libéré dans votre vie? Obéissez à la parole. Dieu est bon, il est plein de miséricorde, et qu'est-ce qu'il cherche? C'est ton bonheur. Donc, il s'est marqué, celui qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché. Mais il faut scruter, il faut regarder, il faut être attentif à la parole de Dieu. Il faut vraiment écouter ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que sinon, vous êtes comme un auditeur oublieux, c'est comme un homme qui se regarde dans le miroir, et tout de suite, en partant, il oublie qu'est-ce qu'il avait l'air. Si vous voulez vous rappeler de ce que Dieu vous dit, il faut regarder, plonger vos regards dans la parole de Dieu. Il faut attentivement écouter ce que Dieu dit. Au lieu d'écouter vos émotions, au lieu d'écouter votre entourage, écoutez attentivement, cherchez de tout votre cœur ce que Dieu dit à propos de votre vie. Cherchez la direction, cherchez vraiment la fondation de votre vie dans la parole de Dieu. Plongez vos regards dans la Bible. Amen. C'est-à-dire que quand vous venez le dimanche et quand le pasteur ou n'importe qui amène la parole de Dieu, au lieu de penser à votre lunch ou votre poutine que vous allez manger, vous êtes vraiment attentif à ce qui est dit. Pas dans le but juste de remplir ta tête, mais dans le but de mettre en pratique ce que vous allez entendre. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, ce n'est pas juste pour faire un devoir spirituel, mais c'est pour trouver et découvrir qu'est-ce que Dieu dit à propos de comment bâtir une vie stable et heureuse ici sur la terre. Amen. Soyez attentifs. Je pense qu'on a, la plupart des chrétiens, je peux dire sans avoir tort, ils font plus attention à qu'est-ce que les autres disent ou à qu'est-ce que les émotions disent qu'à qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Ils vont écouter plus la télévision et les nouvelles. Si à la nouvelle, ils disent, « Oh, tu sais, il y a des virus qui courent cette année. C'est vraiment horrible, c'est méchant. » Et ils vont écouter ça plus qu'ils écoutent la parole qui dit, « Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. » Amen. Mais laisse-moi vous dire, vous serez beaucoup plus heureux d'écouter la parole que d'écouter juste ce qu'ils disent à la nouvelle. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Soyez attentifs à la parole de Dieu. C'est comme Proverbe 4, 20 dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Puis la prochaine chose, numéro 4. C'est pratique ce matin, mais c'est bon. Demeurez fidèlement attachés à la parole. On a lu en Jacques 1, « Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché. » Tout le monde dit « fidèlement attaché ». Qu'est-ce que cela veut dire d'être fidèle? Ça veut dire d'être constant, constamment attaché. Une personne qui est fidèle, comme j'ai dit, ma femme est fidèle à moi dans notre mariage, elle est constamment fidèle à moi. Elle n'est pas fidèle à moi lundi, mercredi et vendredi. Hein? Ça marche pas, hein? Il y a des personnes qui disent, oh chérie, je vais être fidèle à toi trois jours sur sept, mais les autres, je veux avoir la liberté de faire ce que je veux. Ça marche pas, hein? C'est la même chose avec ce qui concerne la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole, il faut que nous soyons fidèles constamment. C'est-à-dire qu'on est fidèle dans les grandes choses et on est fidèle dans les petites choses. Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Mais celui qui est injuste et qui n'est pas fidèle dans les petites choses sera aussi injuste ou infidèle dans les grandes. Amen. Donc, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne faites pas l'erreur de penser, oui, mais ce n'est pas si grave que ça si je ne mets pas ça en pratique aujourd'hui. Hein? Quand le Seigneur te demande de faire des petites choses, faites les petites choses. Amen. Ça peut être simple. Ça peut être très simple. Mais si l'Esprit Saint vous parle ou si la Bible vous donne une instruction et vous voyez que dans votre vie, ce n'est pas une chose que vous faites actuellement, même si c'est la moindre chose, faites-le. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous soyez heureux dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu est bon et sa miséricorde dure à toujours. Et son plan c'est le meilleur. Pourquoi est-ce qu'on attend de la misère avec ça? Pourquoi est-ce qu'on attend de la difficulté? Ça me fait penser à mes enfants. Je m'en souviens des fois, j'avais un de mes garçons que quand il avait 2 ans, des fois, il n'aimait pas s'habiller. Et vraiment, est-ce que vous avez eu des enfants qui ne voulaient pas s'habiller à l'occasion? Il ne voulait pas. Donc, quand il luttait un petit peu pour ne pas mettre son manteau, il n'aimait pas mettre les gants, les bottes. Mais dans le fond, c'est parce qu'on voulait l'amener quelque part pour aller glisser dans la neige ou faire quelque chose de fun. Mais il était trop jeune pour communiquer, pour vraiment expliquer. Tu sais, si seulement tu peux coopérer, tu vas être capable d'aller avec papa et maman et on va faire quelque chose qui est bien de fun. Mais au lieu de s'habiller comme il faut avec une sourire en disant « Ah oui, on y va, on va s'amuser, on va avoir un bon temps », il pique une petite crise. C'est pas bon, non? Mais combien de nous, en tant que chrétiens, nous faisons la même chose? Dieu dit, juste mettez vos bottes, mettez vos gants, hein? Aimez vos femmes, témoignez, ou peu importe qu'est-ce que c'est, pardonnez cette personne, soyez toujours joyeux, hein? Prenez le temps de vous réjouir dans la présence du Seigneur, louez le Seigneur. On dit, ah, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose si je ne loue pas aujourd'hui? Mettez vos gants! On s'en va. On va avoir un bon temps. Vous allez manquer. Mettez vos gants, mettez vos bottes et vous ne serez pas déçus. Amen? Mais souvent, on pique des crises et puis là, on manque. C'est trop tard. On ne peut plus aller. On a manqué l'occasion d'aller s'amuser avec papa et maman. Dieu est notre papa. Il est notre père. Il veut qu'on s'amuse bien avec lui aussi. Mais il veut qu'on fasse les choses comme il nous a demandé de les faire pour avoir du fun. Amen? Alléluia. Donc, demeurez fidèlement attachés. Et numéro 5, conformez vos actes à ce que la parole vous dit. Hein? 1 Jean 3,18 dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'à chaque fois que vous lisez la Bible, à chaque fois que vous écoutez un message, vous devriez toujours vous poser la question, « Seigneur, comment est-ce que je peux mettre cette parole en pratique. Est-ce qu'il y a une chose spécifique que je peux faire pour mettre action à ces paroles? » Amen? Posez-vous pas la question, écrivez pas une liste de qu'est-ce que votre épouse devrait faire pour mettre le message en pratique. Mais faites une liste de qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre la parole en pratique, pour agir en conséquence. Amen? Ne soyons pas les auditeurs oublieux. C'est comme la personne qui est allée chez le médecin. Et le médecin a dit à la personne, « Si je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 1000 fois, je ne traite pas les patients qui sont malentendants. » Combien de fois, hein? On vient à l'église, on ouvre nos bibles, on entend, et on entend, on remplit notre tête, mais on ne fait jamais quoi que ce soit pour mettre la parole de Dieu en action. Et on vit quand même comme des personnes dans le désert, affamées, assoiffées, dans la misère, pas de stabilité dans la vie. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut vous faire sortir du désert pour vous amener à une ville habitable, une place où vous pouvez construire et bâtir une vie stable et une vie heureuse qui va durer longtemps. Et là, vous allez être heureux en tout ce que vous faites. Amen. On va se lever debout et on va prier ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas si tu peux voir si Tania a terminé, si elle a le temps de venir jouer. Si ça marche, sinon on peut prier sans avoir la musique ce matin. Alléluia. J'aimerais vous inviter à juste fermer les yeux pour un instant. Et on va prier. Père Céleste, au nom de Jésus, aide-nous ce matin à prendre une décision de qualité, d'être les personnes heureuses, les enfants de Dieu qui sont heureux dans la vie, parce que nous bâtissons selon ta parole. Père, merci que nous ne sommes pas des auditeurs oublieux, mais nous sommes ceux qui mettent en pratique la parole à tous les jours. Juste avec tous les yeux fermés, j'aimerais inviter, si par chance il y a une personne ici présente ce matin
vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, vous n'avez jamais vraiment accepté le don gratuit du salut en Jésus-Christ, je vous invite ce matin de faire une prière avec moi. Vous pouvez sortir d'ici sachant sans aucun doute que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes pardonné de vos péchés, que vous avez une place réservée pour vous au ciel. Avec tous les yeux fermés, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main en disant, « Moi, je veux que tu pries pour moi, je veux donner ma vie à Jésus ce matin. » Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alléluia. Sinon, je pense qu'on a tous besoin de faire cette prière. De demander l'aide du Saint-Esprit. C'est lui, c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance et c'est sa grâce qui nous donne le pouvoir de faire qu'est-ce que notre cœur désire faire. En fait, la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui travaille en nous. Et je pense qu'on a tous besoin. On a entendu des messages dernièrement de comment vivre pour Jésus au lieu de vivre pour soi-même. Au lieu d'avoir une petite vie égoïste, on peut vivre une vie qui va faire un impact. Mais il faut mettre ces choses en pratique. Il ne faut pas être les auditeurs oublieux. Donc là où vous êtes, juste sondez votre cœur et demandez au Saint-Esprit de sonder votre cœur. Et je vous invite à prier cette prière avec moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reconnais la Bible, Seigneur, comme étant inspirée de toi. C'est mon autorité. Et je prends une décision de me soumettre à ta parole. Au nom de Jésus, aide-moi à mettre la parole en pratique et de ne jamais être un auditeur oublieux qui se trompe lui-même. Au nom de Jésus, amen. On va juste faire une prière.